Bonjour à toutes et à tous. L'Aveyron a de mémoire dans les 230 ans. C'était autour de la Révolution française, la création du département de l'Aveyron. Mais en fait, notre territoire est bien plus ancien que cela et une histoire bien plus longue. Une preuve supplémentaire avec mes invités aujourd'hui, à l'occasion de la fête des fouilles archéologiques de Roquemissou, du côté de Gage-Mont-Rosier. C'est samedi toute la journée avec de très nombreux rendez-vous. On va en parler avec tout d'abord Alain Soubrier, c'est bien ça. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alain, vous êtes coordinateur de l'espace archéologique de Mont-Rosier. Musée de Mont-Rosier, musée archéologique de Mont-Rosier, on peut le dire aussi comme ça.
Absolument, c'est un centre d'interprétation à l'archéologie.
Eh bien, on va en parler évidemment, c'est l'occasion de le découvrir. Et puis, vous êtes par ailleurs membre de l'association ASPA, ASP2A, c'est l'association pour la sauvegarde du patrimoine archéologique aveyronnais, une association qui organise cette fête des fouilles archéologiques ce samedi toute la journée du côté de chez vous à Mont-Rosier. Avec nous aussi dans les studios, un chercheur, un archéologue. Un monsieur qui passe ses journées à quatre pattes, à genoux, en train de gratter la terre, au pinceau, tout doucement, tout méticuleusement, et notamment à Mont-Rosier. Bonjour Thomas Perrin.
Bonjour.
Thomas, vous êtes directeur de recherche au CNRS, alors rien que ça, ça le fait, paf, là où tout de suite ça calme.
Mm-hmm.
Bravo déjà.
Bah.
Toutes mes félicitations.
Oui.
Vous êtes basé à Toulouse, mais vous travaillez à Mont-Rosier, ouais, ça fait un moment. Alors peut-être pas 12 mois sur 12, puisque vous êtes en charge des fouilles de Roquemissou.
Oui.
Et vous participerez à la fête des fouilles archéologiques ce samedi, évidemment. Première question à vous, Thomas. Qu'est-ce que vous fouinez, enfin non, qu'est-ce que vous fouillez à Roquemissou? Et puis depuis un moment, parce que ça fait depuis quoi, plus de 10 ans que vous êtes là-bas?
Ouais, c'est la 11e campagne cette année.
Eh ben.
Et du coup, Roquemissou, c'est un site archéologique qui avait déjà été fouillé dans les années 80. Enfin, il y a eu des premiers sondages qui avaient été réalisés dans les années 80. Et qui avait montré la présence de toute une série d'occupations préhistoriques qui s'étalent sur plusieurs millénaires. Il y avait certains résultats qui méritaient d'être revus, d'être vérifiés en quelque sorte, avec l'évolution des connaissances sur la préhistoire depuis ces fouilles. Et donc en fait, il y a donc 12 ans maintenant, donc en 2012, on a commencé à reprendre les travaux pour aller vérifier les résultats qui avaient été acquis. Donc c'est des fouilles qui sont forcément très lentes parce que très lentes. En tout cas, ça prend du temps parce que du coup il faut tout décrypter, tout démêler, et c'est souvent très emmêlé justement sur le terrain.
Enfin,
on croit souvent qu'un site archéologique c'est un millefeuille, c'est l'image d'épinal qu'on dit. Alors c'est un millefeuille, mais c'est un millefeuille qui est torturé dans tous les sens, qui est complètement tordu. C'est long, c'est méticuleux effectivement, mais on travaille pas que au pinceau et à l'outil de dentiste. On aime bien aussi les pioches et les baramines.
Ah d'accord.
Voire plus. Voilà. Et donc, en gros, la problématique principale des recherches qu'on conduit donc depuis 2012, c'est le processus de transition de l'apparition de l'agriculture et de l'élevage, de ce qu'on appelle le néolithique et de la sédentarité, du coup, dans le sud de la France, et donc là, plus spécifiquement, dans le nord Aveyron.
D'accord. Et donc, on est, pour se placer dans l'échelle du temps, on est quand à peu près?
Alors, ce processus particulier là, de l'apparition du néolithique dans la région, c'est autour de 5000 ans avant notre ère, grosso modo. Mais après, les occupations sur le site même de Roquemissou, elles commencent pour l'instant vers 11 000 avant notre ère. On n'en a pas de plus vieilles pour le moment, mais ce n'est pas impossible qu'il y en ait des plus anciennes qui apparaissent. Et ça se poursuit jusque vers 2300 avant notre ère. Et ensuite, les environs sont toujours occupés, notamment par une villa gallo-romaine plus récente, etc. Mais pas sur le site même de Roquemissou, mais dans ses environs. Quoi.
Alors, parce que l'archéologie, j'ai envie de vous dire, excusez-moi d'avance, mais où qu'on creuse, on trouve quelque chose. Donc pourquoi Roquemissou, ça a quelque chose de particulier qui mérite 10 ans, plus de 10 ans de fouilles?
Oui. Bah, en fait, ça fait même plus de 10 ans, parce que du coup, mon prédécesseur, lui, il avait déjà fait 8 ou 9 campagnes, je ne sais plus.
Enfin, voilà, c'est ça.
Ça fait une vingtaine d'années de recherche. Alors, c'est ce que vous disiez en introduction. Après, c'est pas des recherches qui ont lieu toute l'année, puisque c'est des recherches, c'est de la fouille archéologique programmée, on appelle ça. Mmh. C'est pas lié à une urgence. Le site est protégé, il n'y a pas de danger.
Ah oui, de danger de destruction, ou de route. D'accord, ouais.
Et du coup, c'est surtout des étudiants qui viennent travailler sur le chantier, qui sont bénévoles, et en fait, qui viennent se former à l'archéologie en même temps. Donc en fait, il y a toute une mission pédagogique aussi de ces fouilles, de formation. Mais les étudiants, pendant l'année, ils ont des cours, quoi. Donc on ne peut ne travailler que, principalement en dehors des périodes universitaires. Voilà, donc en fait, les fouilles sur le terrain, elles ont lieu au mois de juillet en général. Et le reste de l'année, par contre, c'est tout ce qui est étude des matériaux, des vestiges qui ont été récoltés, les recherches de financement, la justification des financements, etc.
Tous les volants administratifs aussi. C'est le côté moins marrant.
Ouais.
Mais quand même, sur le site, là, depuis que vous y êtes, que vous effectuez des fouilles. Qu'est-ce que vous avez trouvé?
Eh ben en fait, on trouve, ce sont des vestiges des occupations, c'est les gens qui sont venus s'installer, donc c'est des habitats en quelque sorte, ouais. Mais c'est des habitats qui peuvent être de nature très diverse, notamment selon les périodes.
C'est-à-dire bah ouais, parce que les habitats, les maisons, à l'époque, il y avait des maisons de pierre, non?
Ah, ça dépend quand, parce que du coup, en fait, les gens sont revenus pendant 9000 ans, du coup, sur le site, entre 11000 et 2000.
Alors, ils sont revenus, c'est-à-dire que c'était pas permanent, c'était des allers-retours.
Ah ben, ça dépend à l'échelle de temps à laquelle on se place. Okay, c'est-à-dire, vu de maintenant, c'est des allers-retours, effectivement. Après, les toutes premières occupations, par exemple, c'est des gens qui étaient vers 11 000 ans avant notre ère, par exemple, c'est des gens qui étaient des chasseurs-collecteurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne produisaient pas leur nourriture, mais ils la prélevaient dans la nature, que ce soit les animaux ou les végétaux. Et donc, en fait, ce mode de vie implique un déplacement saisonnier, en fait. Puisque si vous restez toute l'année sur le même endroit...
Normalement, des fraises, il n'y en a plus. Il faut aller chercher ailleurs.
Exactement. Ouais, ouais. Donc du coup, c'est des gens qui se déplacent dans un parcours et puis qui reviennent régulièrement sur le site. Donc c'est des habitats forcément assez légers, des choses pour faire des raccourcis un peu scabreux. C'est un peu le principe des tipis et des Indiens d'Amérique du Nord.
D'accord.
L'image qu'on en a, alors, toute proportion gardée. Après, à l'opposé, à la fin de l'occupation, vers 2000 avant notre ère, c'est des villages de maisons construites. Il y avait un vrai village avec sans doute plusieurs dizaines de personnes, on ne saura pas, mais en tout cas plusieurs familles qui habitaient dans des maisons construites en pierre, etc. Enfin,
Et on peut dire que c'était des Aveyronnais?
Alors, la notion d'Aveyronnais, elle a 230 ans. ce que vous disiez à l'introduction, au-delà de ces 230 ans, je pense que ça n'a pas grand sens. Non. Ou sinon, tout le monde est Aveyronnais, si vous voulez.
peut-être. on va parler de ces fouilles, bien sûr, à Roquemiçou, qui se poursuivent cet été. Et surtout, on en parle de ces fouilles avec vous, Thomas, c'est parce que le chantier sera ouvert au public samedi pour cette fête des fouilles archéologiques à Roquemiçou, Gage Montrosier. Je ne suis pas sûr que pour les archéologues, ce soit le meilleur moment, ça, de voir plein de gens autour de soi qui papillonne. Bon, bref, mais enfin, faut le faire. Ça participe aussi aux transmissions du métier.
Après, c'est un bien collectif, l'archéologie. Donc, les gens, c'est bien qu'ils s'intéressent et qu'ils viennent voir leur patrimoine aussi.
Alain Soubrier, je rappelle que vous êtes à l'organisation de cet événement, notamment, et ce pour l'association ASPA-SO pour la sauvegarde du patrimoine archéologique aveyronnais. Oui, cette fête des fouilles archéologiques samedi, toute la journée, c'est la visite du chantier dans l'après-midi.
Tout à fait.
Mais pas seulement, c'est un peu le point d'orgue de cette journée.
Absolument. On va accueillir les participants à partir de 9h30 pour un café d'accueil.
C'est bien.
Et à partir de 10h, on va avoir un cycle de petites interventions. Il y aura 5 intervenants qui vont proposer des petites communications d'une vingtaine de minutes qui se veulent grand public. L'archéologie, ça peut être... également pour tous les publics, et c'est ce qu'on s'évertue à faire à Montrosier.
Oui, ça peut être très technique, très scientifique, c'est le cas d'ailleurs, la pratique, mais dans ceux qui ont le goût, l'intérêt pour ces matières-là, il y a plein de mots qui sont dans votre vocabulaire, Thomas, que nous on ne connaît pas. On va faire ensemble le programme de la matinée.
Tout à fait.
Pour ces conférences que vous proposez, vous faites bien dire que c'est à destination de tous les publics, parce que quand on lit le titre, moi perso, parfois je me dis « Oh là !» Alors, 9h30, ouverture des portes. Ensuite, début des conférences à 10h avec vous, Thomas, Thomas Perrin, directeur de recherche au CNRS, on le rappelle, et responsable des fouilles à Roquemiçou. Donc là, c'est un point d'actu sur l'état des fouilles.
Oui, tout à fait. En gros, c'est présenter, rappeler brièvement ce pourquoi on est là, et puis de présenter aux gens qui viennent l'état d'avancée des recherches, quoi. Les dernières découvertes, les dernières hypothèses et les perspectives à venir.
Voilà. Bon, et parmi ce que vous êtes en train de chercher ou de fouiller en ce moment, ça serait quoi la super découverte, le truc putain, dingue ça, alors vraiment, là.
Alors, le truc un peu étonnant et qui a fait couler un petit peu d'encre l'an dernier, c'était effectivement la découverte d'une petite lamelle d'obsidienne qui est donc illustrée sur le dépliant.
Sur l'affiche de la fête, je la vois.
De la fête de samedi. C'est un tout petit élément de pierre.
C'est gros comme un
qui fait 2 cm.
Ouais, c'est un gros ongle de doigt.
Ouais, voilà, ça fait 2 cm de long, 1 cm de large.
Ouais.
Mais c'est quelque chose de tout à fait unique puisque c'est une pierre qui est originaire du sud de la Sardaigne.
Ah d'accord, vous avez retrouvé d'où venait le tout petit morceau de pierre, vous arrivez à savoir que ça vient du sud de la Sardaigne.
Oui, on sait précisément d'où dans le sud de la Sardaigne, enfin, c'est une coulée volcanique spécifique d'un volcan qui s'appelle le Monte Archi, et qui s'est retrouvé donc, à Montrosier dans l'Aveyron, et qui date d'environ 5900 ans avant notre ère.
Donc il y a 8000 ans.
Voilà, il y a 8000 ans,
c'est ancien, c'est tout même à fait pour ça. Pour votre période,
ouais. Et c'est la première fois dans le sud de la France qu'on découvre
ah bon
ce type de vestiges à cette période-là, dans un contexte où les gens qui étaient là sont des chasseurs-collecteurs, justement, locaux.
D'accord. Alors, l'obsidienne, on précise, c'est une pierre. Il devait s'en servir pour couper, hein, ça.
C'est,
en tout cas,
voilà, c'est
très
une
bien.
Roche volcanique, c'est un verre volcanique naturel, voilà, en fait. Ouais. Donc, c'est quelque chose de très tranchant. C'est translucide, on peut voir à travers un petit peu, a priori. Mais par contre, ça n'existe. Alors, les obsidiennes, il y en a partout, un petit peu. Enfin, partout. Il y en a souvent là où il y a des volcans, mais par contre, de qualité suffisante et de taille suffisante pour pouvoir être taillé, comme un silex, pour pouvoir fabriquer un outil avec, il y a 4 sources potentielles en Méditerranée occidentale,
d'accord,
qui sont toutes autour du sud de l'Italie. Et ce verre volcanique, en fait, contient des minéraux dans des proportions telles qu'on peut, si on fait une analyse géochimique, on est capable de dire, ben, en fait, cette obsidienne-là, elle vient de telle coulée à
d'accord
tel endroit. Et
d'accord,
donc, celle-là, c'est, elle vient de la coulée A du Monte Arce.
Et les liens entre l'Aveyron et le sud de la Sardaigne,
et ben c'est justement...
on a une explication, parce qu'actuellement, même pour aller en Corse, c'est pas évident. Quoi. Si vous avez un avion, alors je sais pas comment ils faisaient. Hein.
Alors, ils faisaient ça en bateau.
Ah ouais.
La navigation hauturière, elle est maîtrisée depuis longtemps, probablement. Et en fait, là, bah justement, cette pièce, elle est vraiment surprenante, parce que normalement, à cette période-là, donc autour d'il y a 8000 ans, les seules personnes, enfin les seuls groupes humains qui utilisent l'obsidienne pour faire leurs outillages sont les premiers paysans, donc les néolithiques.
Ah, d'accord.
Voilà. Or, les néolithiques, ils ne sont pas en France à cette date-là.
Ouais.
Ils arrivent vers Béziers, les tout premiers qu'on connaît, ils sont à Béziers, on va dire, vers 5800 avant.
Ah, ils arrivent par la Méditerranée, ils n'arrivent pas par l'Allemagne
non,
ou...
non, non. Alors, dans le nord de la France, ils arrivent par le Danube, mais en Méditerranée occidentale, c'est une diffusion par la côte, probablement par bateau.
Ouais.
Et les tout premiers qu'on connaît, c'est des gens qui arrivent, donc, qui s'installent. Donc, les deux premiers, les sites les plus anciens qu'on connaît à l'état actuel des données, c'est à Béziers. Sont les sites de Perosignano et de Pont-de-Requeux-Haute à Port-Tiragne. Et c'est des gens qui viennent par bateau directement d'Italie centrale. C'est-à-dire c'est des colons, des colons purs et durs qui se déplacent avec armes et bagages, et animaux, etc., céréales et outils, et notamment des outils qu'ils ont faits en obsidienne, qui sont allés chercher dans le sud de la Sardaigne. Donc en fait, cette petite pièce, à elle toute seule, elle remet un peu en cause la datation de la diffusion du néolithique dans tout le sud de la France, puisqu'elle est plus ancienne que les premiers sites connus.
Ah oui.
Et par ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait ici ? Puisque, je veux dire, on n'est quand même pas tout à fait à Béziers. Donc la question, c'est est-ce que c'est un mésolithique aveyronnais qui est descendu à Béziers, qui a échangé avec ses premiers paysans et qui a remonté plusieurs obsidiennes, puisqu'on en a trouvé une autre cette année, ici, ou est-ce que c'est un explorateur néolithique qui est venu et qui est passé par là et qui a, d'une manière ou d'une autre, laissé les traces de son passage.
C'est passionnant, évidemment, et on poursuivra cette discussion avec vous, hein, Thomas Perrin, pour cette première conférence dans le cadre de la fête des fouilles archéologiques de Roquemissou à Montrosier, ce samedi à 10h. Et ces conférences, celle-ci en tous les cas, sera à la salle communale de Montrosier, c'est ça
Absolument.
C'est ça, Alain?
C'est ça.
Très bien.
On est en dessous du musée.
Bon, voilà, tout est à portée de pied.
On ne peut pas se perdre.
Facilement. Ensuite, donc c'est bien parce que les... Enfin, c'est bien. À chaque fois, à mon avis, on a envie de prolonger la discussion. Mais là, les conférences sont calées sur une vingtaine de minutes. Notamment pour les plus jeunes ou ceux qui sont moins aguerris à votre vocabulaire, ça va, quoi. On ne va pas avoir mal au crâne tout de suite, quoi.
Oui, 20 minutes et plus de détente de discussion avec les chercheurs.
Mmh.
Où donc, justement, le public va pouvoir poser des questions.
Mais oui.
Et donc, on aura 4 autres communications qui vont suivre celle de Thomas.
Deuxième conférence à 10h20 samedi. Là, c'est Elsa Dufranou qui la propose. C'est une post-doctorante en archéologie. Bon, parfait. Le titre de la conf, c'est « La néolisation des causes méridionaux.
Ah.
État de la question et actualité des recherches ». Bon, ok. Néolisation. Alors, moi, je découvre.
Néolisation.
En fait, c'est...
C'est une faute de frappe.
On s'aperçoit, du coup, qu'il y a une coquille.
Ah, bon, ouais, d'accord.
En lisant.
D'accord. Alors, c'est quoi l'autre mot ? Parce que même l'autre...
C'est néolithisation.
Néolithisation, d'accord. Donc c'est le passage de la période avant le néolithique au néolithique.
C'est ça, c'est le processus qui fait que les hommes d'un seul coup arrêtent de vivre comme des chasseurs-collecteurs semi-itinérants en quelque sorte, à se sédentariser et à pratiquer l'agriculture et l'élevage.
Très bien, donc voilà pour cette deuxième conférence. Troisième conférence, 10h40, on enchaîne. Bon là vous allez peut-être me dire qu'il y a une faute de frappe, mais pareil, bon, il y a un mot que je connais pas, quoi. Le thème de cette conférence proposé par le président de l'association, l'ASPA d'ailleurs.
Absolument, Michel Maillet.
Voilà, Alain, c'est le groupe des treilles, une riche culture chalcolithique. Alors chalcolithique, j'ai déjà vu ça.
Chalcolithique,
pardon, c'est à base de cuivre.
Exactement.
Bon, j'avais les bases, mais bon, voilà. Je n'avais pas le prononcé. Par contre, le groupe des treilles, T-R-E-I-2-L-E-S, c'est quoi ?
En fait, c'est le nom d'une culture archéologique. Alors en fait, selon les périodes, les gens ont des pratiques sociales, culturelles, alimentaires, de façon de vivre qui sont spécifiques à leur état de vie. Les Romains ne vivaient pas comme on vit actuellement, par exemple. Voilà, ça fait des groupes culturels spécifiques. Et donc, au 3e millénaire avant notre ère, dans la région, les gens se mettent notamment à exploiter le cuivre et à produire des outils dans métallurgie. C'est le moment aussi, il y a toutes les statues menhirs
qui sont un
patrimoine à Véronèse, justement, assez particulier. C'est le moment où il y a beaucoup de dolmens, etc. Et le site d'Étreille, c'est un site qui a été fouillé, donc qui est plutôt dans le sud du département, qui a été fouillé dans les années 70-80, je dirais, comme ça. Ouais. Et qui est un site qui a permis justement d'identifier les spécificités des pratiques sociales et culturelles à cette période-là. Donc en fait, le site donne son nom à une entité culturelle, comme on parlerait du Moyen-Âge.
Enfin,
voilà,
okay. C'est une appellation pour situer un petit peu dans le temps et la culture.
On peut ajouter concernant Michel Maillet qu'à la base, il est agriculteur et en travaillant, il a trouvé une première statue menhir dans son champ.
Ah mais ça, les agriculteurs, souvent, ils doivent vous appeler et vous dire « Attendez, il y a un truc bizarre dans mon champ ».
Absolument. C'est pour ça qu'on a vraiment une vocation départementale pour les informer, notamment les agriculteurs, pour qu'ils nous signalent d'éventuelles découvertes. Et Michel Maillet, il s'est pris de passion pour les statues menhirs jusqu'à en devenir le spécialiste des statues menhirs.
Et oui, alors cette période-là, pareil pour situer dans le temps, parce que c'est vrai qu'on... Déjà, c'est lointain tout ça, c'est dur à imaginer. Donc là, on est à moins 3000 avant Jésus-Christ. Pour resituer à peu près, en comparer par rapport à des trucs qu'on connaît, c'est le moment où on venait de finir les grandes pyramides en Égypte, grosso modo, pour situer à peu près.
C'est à peu près le moment de la bascule de l'âge de la pierre à l'âge des métaux, il y a à peu près 5000 ans.
Oui.
Et l'Aveyron est le département français qui a le plus grand nombre de statues menhirs.
Et je sais ça. Et même, paraît-il, tout peut-être comme même de dolmen.
Oui, également.
Ça, les Bretons, quand vous leur dites ça, ils disent non.
Oui, on a quelques explications de temps en temps au musée où il faut leur expliquer effectivement ce qu'il en est.
Très bien, allez, bonne discussion, il y en aura plein samedi avec vous, bien sûr, à l'occasion de cette fête des fouilles archéologiques, je le rappelle. Toute la journée pour les conférences, on n'a pas terminé. À 11h, une autre est prévue, étude des objets métalliques néolithiques et des contextes avéronnais. Premier résultat, donc là je pense que, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, mais sinon je pense que ça dit relativement bien de quoi il s'agit.
Parfait.
11h20, Philippe Gruat, tiens je le connais, c'est le directeur du service départemental d'archéologie de l'Aveyron, tout à fait.
Absolument.
Qui présentera lui aussi une conférence autour...
Alors ça va être plutôt sur les systèmes défensifs, notamment de l'âge du fer, qui est sa spécialité de prédilection. Il va nous parler d'un site phare du département, qui est le Puège de Mus.
Et les rutènes, tiens, juste un mot là, parce que bon, Gage-Morosier, on est pas là en Rhodes, on parle des rutènes, tiens un mot là-dessus, parce que moi on parle souvent, moi qui suis pas avéronnais en plus, les rutènes, on est dans vos périodes Thomas ou pas
non,
du tout
non, 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 du c'est, tout, c'est non. On est dans la période de Philippe justement, c'est Philippe Gruat, ouais.
Ah d'accord.
C'est les plus rutènes, récent. C'est un peuple celte justement, enfin un peuple,
C'est ça, c'est à la toute fin de la préhistoire. Et d'ailleurs, il y aura une conférence justement, qui sera dédié aux rutènes au mois d'août à Sainte-Eulalie de Cernon.
Oh, très bien, bon, on va y revenir. On termine sur le programme de cette fête des fouilles archéologiques ce samedi, après l'intervention de Philippe Gruat. À midi, il y aura un apéritif offert, un pique-nique tiré du sac, tranquille. Hein.
Oui, absolument, la municipalité qui va offrir l'apéritif. Et on sera sur la presqu'île de Rocomissou. Donc on va partir de la salle communale pour se rendre vers le site.
D'accord.
Un moment de convivialité où le public, justement, va pouvoir échanger avec les chercheurs. Et c'est vraiment un moment important. Il y a notamment également toute l'équipe de fouilles du chantier de Thomas qui y participe.
Vous êtes combien, Thomas, sur ce chantier de fouilles à peu près
On est une grosse douzaine, on va dire.
Ah,
on tourne entre 12 et 15. Quoi.
L'après-midi, donc, ça sera avec vous, Thomas, et votre équipe. Oui. En tous les cas, il y aura cette visite du chantier de fouilles en début d'après-midi.
Alors, il y en a plusieurs, en fait.
Il y en a plusieurs, ouais.
Ouais, ouais, c'est ouais. Ça. Pendant tout l'après-midi, de 14h à 18h, le public va...
La surface des fouilles, c'est combien de mètres carrés? Parce que des fois, c'est des tout petits trucs.
C'est petit. Ça fait... on fouille en tout, je crois, une soixantaine de mètres carrés.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est pas très grand.
Ouais.
Mais voilà. Après, cela dit, j'en profite justement parce que à propos de l'apéritif, et de la découverte de l'après-midi, c'est un endroit qui est par ailleurs très bucolique et très joli. Donc les gens qui ne connaissent pas, ça vaut la peine de se déplacer, ne serait-ce que pour l'endroit.
Gâche rien, bien sûr. Pour cette journée, je ne vous ai pas demandé
Alain, oui. Pour cette journée que vous organisez, ces conférences, la visite du chantier et puis la visite du musée aussi pour terminer, on va en parler.
La journée est entièrement gratuite.
Ah, bah voilà, c'est important ça pour les familles absolument. Qui nous écoutent notamment parce que l'archéologie, bah ça peut passionner les adultes, hein, mais aussi beaucoup les enfants. Hein, moi-même,
alors de plus en plus, et c'est un peu notre vocation à Montrosier. C'est pour ça qu'on va proposer des activités comme l'initiation à la fouille archéologique. À Montrosier, on a des bacs d'initiation dédiés sur deux périodes.
Ah, vous allez faire un petit peu
absolument, ouais. Les enfants pourront faire l'initiation à la fouille, aller visiter le chantier et puis terminer au musée avec l'exposition principale qui est dédiée à Roquemissou.
Et effectivement, dans l'après-midi, samedi, il y aura la visite du musée. Un mot, puisque vous en êtes le responsable, enfin le coordinateur.
Le coordinateur.
Alain Soubrier, coordinateur de cet espace archéologique de Montrosier. Bon, j'imagine qu'il présente... les découvertes du chantier de fouilles, déjà, notamment. Et le petit truc en obsidienne, il est chez vous c'est pas au Louvre?
Pas encore, pas encore, mais il va venir parce que il fait l'objet de pas mal d'études.
Ouais. Il est où, là? Il est dans un labo, Thomas?
Il est au labo à Toulouse, ouais. Comme le dit Alain, c'est un objet, il faut qu'on ait fini de l'étudier avant de l'exposer, parce que sinon, c'est ingérable pour les responsables du musée, si on passe son temps à le prendre et à l'enlever. Donc là, on termine les dernières études, et là, actuellement, il est sur une collègue qui étudie les traces d'utilisation au microscope, notamment.
À voir si ça a été frotté.
Voilà.
Et là,
par exemple, elle est en train de... L'hypothèse qui reste à confirmer, mais il y a de bonnes probabilités que ce soit le cas, elle est en train de démontrer que c'est un outil qui a servi à couper des céréales.
Voilà. Parce qu'il doit rester des minuscules traces de griffures de graines.
Quand on coupe les céréales, il y a un peu de silice à l'intérieur. Et donc, quand on les moissonne avec un outil en pierre, ça laisse des traces sur l'outil en pierre.
Ah oui, c'est pour moissonner, pour couper les... Ah,
oui.
Donc, ils prenaient des trucs qui coupaient bien. Ils étaient pointilleux, nos ancêtres.
C'est très tranchant.
Oui, très tranchant. Bon.
On peut préciser qu'on a pas mal de documents dérivés de l'exposition.
Oui.
On a une application qu'on peut télécharger qui s'appelle Roquemissou 360.
Ah bah très bien, ouais.
Une visite virtuelle qui permet d'avoir l'intégralité de l'exposition et des bonus avec des interviews des principaux chercheurs qui ont participé à l'exposition. On a même eu la chance d'avoir une planche de bande dessinée dans l'album Les Archéos, le tome 2. Une planche qui permet de montrer un petit peu les coulisses de la conception d'une exposition.
Voilà, et ça sera à voir, notamment avec le musée qui sera ouvert, bien sûr, samedi, à l'occasion de cette fête des fouilles archéologiques. Un musée à visiter pour ceux qui ne le connaissent pas. Ouais, on est basé sur l'époque à peu près... on ne fait pas, Montrosier au Moyen-Âge
Alors, de toute manière, au musée, on a plusieurs expositions. Ouais. Alors, évidemment, on a l'exposition principale, Roquemissou, plongée dans la préhistoire du Cos, qui sera liée au bac d'initiation à la fouille archéologique. Mais on va également proposer au public de découvrir l'exposition sur la villa gallo-romaine d'Argentelle, qui est située entre le musée et Roquemissou et qui est la plus vaste villa romaine retrouvée à ce jour. On a également...
En Aveyron.
En Aveyron, oui, bien sûr.
Non, je ne sais pas, vraiment, j'en sais rien. Cela dit, et attendez, Alain, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais juste à côté de la radio, il y en a une autre.
Mais exactement.
Elle a l'air belle aussi, ils ont trouvé des trucs.
Absolument, mais comme vous disiez, c'est vrai que quand on creuse,
on
trouve. Alors, surtout à Rodez, à Ségoudounoum, parce qu'on a une occupation bimillénaire à Ségoudounoum, donc c'est bien évidemment qu'il y a de l'archéologie, des surveillances à chaque fois qu'il y a des travaux en ville. Oui.
D'accord, mais votre villa romaine, vous pensez qu'elle est mieux que celle de la BRU à Bébessou, d'après ce que vous avez vu?
Elle est plus vaste, oui, forcément. là, ce n'est pas une villa gallo-romaine, je pense, à proprement parler. Ah. On est dans le cœur de Ségoudounoum.
Dans de l'urbain, oui.
Oui, ils sont en train de chercher, je les ai invités, il faut les autorisations, on les aura bientôt et on en saura plus sur CFM d'ici quelques temps. Avant ça, bien sûr, si vous êtes intéressé ou passionné d'archéologie, ou si vous avez envie, pourquoi pas, de vous y intéresser pour la première fois, la belle occasion, c'est bien sûr samedi, à Montrosier, Gage Montrosier, le site de Roquemissou pour cette fête des fouilles de Roquemissou, avec ces animations toute la journée, des conférences dans la matinée, on l'a vu, avec vraiment des chercheurs de haut niveau, mais qui se mettront à portée de leurs auditeurs, bien sûr, de leurs spectateurs. Et puis à l'après-midi, cette visite du chantier archéologique en fouille en ce moment, les fouilles qui sont menées par Thomas Perrin, notre invité. Les fouilles, vous savez... On fouille tant qu'il y a quelque chose à creuser ou à un moment donné, ça va durer combien de temps?
Alors je ne sais pas répondre à cette question malheureusement, je me la pose très souvent aussi. Voilà. Là typiquement dans ces recherches où on travaille sur des sites archéologiques qui ne sont pas menacés par des aménagements,
d'accord.
En fait on va essayer de répondre à une question bien spécifique, on fait une problématique quoi, voilà. Et donc par exemple le site de Roquemisou, je vous disais, il commence à être occupé vers 11 000 ans avant notre ère. Moi, c'est des niveaux que je ne vais pas fouiller, ceux-là, parce que déjà, je ne suis pas compétent dans cette période chronologique et ça ne répond pas à la question que je me pose. Moi, la question qu'on se pose, pour les fouilles que j'ai reprises, c'est vraiment cette apparition du néolithique,
la transition.
Le processus de transition. Donc, il faut qu'on sache un peu ce qu'il y avait avant la mise en place du néolithique pour pouvoir documenter ce processus, justement. Donc, c'est ce qu'on appelle le mésolithique, les groupes mésolithiques. Donc, ça, on va en fouiller en partie. Mais après, dès que ces niveaux-là seront finis de fouiller, on va s'arrêter.
Ah ouais.
Et soit un collègue qui...
On va pas gratter un peu quand même pour voir, on sait jamais, si ça se trouve, on va trouver un truc de dingue, on peut pas savoir.
Ah, peut-être, on saura pas. Mais soit un collègue spécialiste de ces périodes prend la suite et poursuit les recherches, soit sinon, on rebouche le site pour le protéger et puis ça attendra une autre occasion.
Tiens, la question, peut-être plus à vous, Alain. Parce que Roquemisou, les mots souvent ont un sens, même si, Roquemisou, dedans, il y a rocher, c'est-à-dire que le site, c'est plutôt une grotte, un style comme on imagine les hommes précis.
C'est un abri sous roche.
D'accord.
Un abri sous roche. Et
un roc mis sous la roche. Non ? Ah bah si.
Possiblement. Ah bah si. Logiquement.
Thomas.
En fait, on ne sait pas. Il y a tout un tas d'hypothèses possibles et variées. On a des collègues qui ont fait des recherches dans les dictionnaires d'Occitan, dans des choses comme ça. Mais on ne sait pas. Ça peut être le rocher moussu aussi. Ça peut être.
On n'a pas de certitude.
Si vous avez des auditeurs qui ont une explication crédible et. Vérifiable.
Ah, on est preneur.
Bon, merci beaucoup. En tout cas, on pourra venir en discuter avec vous de toutes vos suggestions samedi toute la journée pour ce superbe rendez-vous proposé, on le rappelle, par l'ASPA, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine archéologique aveyronnais, et bien sûr en partenariat aussi avec le musée archéologique de Montrosier. Oui, Alain ?
Oui, une dernière chose.
Allez-y,
on proposera également, à partir de 15h, une balade archéologique depuis le musée jusque sur le site de Roquemisou. Et donc, on va passer devant l'emplacement de la Villa Gallo-Romaine d'Argentel.
Moi, je vais venir, je vous le dis tout de suite.
Mais avec grand plaisir.
Dernière chose.
On vous proposera l'initiation à la fouille archéologique avant.
Il ne faut pas me le faire deux fois. Dernière chose, l'association, c'est ce grand événement-là, cette fête des fouilles archéologiques. Mais j'imagine que vous en avez peut-être plusieurs, des rendez-vous et des animations, même ne serait-ce que l'été quand même.
Alors, l'association est une association avec des membres qui sont éclatés en quelque sorte dans tout le département et également dans d'autres départements. Les principales journées où on se rencontre, alors il y a la fête des fouilles, mais il y a surtout la journée départementale d'archéologie qui a lieu chaque année au mois d'octobre, et là qui est une véritable institution. On doit en être à peut-être la 28e édition. Elle aura lieu cette année au mois d'octobre à Baraqueville, et donc le programme sera proposé, dévoilé un peu plus tard, et là la journée est organisée par le département d'Aveyron en partenariat avec l'association ASPA.
On peut retrouver le calendrier de l'association sur une page Facebook, un site internet.
On a une page Facebook, effectivement, ASPA Archéologie, tout simplement.
Okay. ASP2A.
Oui, ASP2A, plus loin Archéologie, où régulièrement on met les informations qui concernent pas forcément que l'association, c'est l'archéologie départementale, régionale et même mondiale. Ça permet d'avoir effectivement pas mal d'informations. On est de plus en plus suivi via cette page.
Bon, je vais jeter un petit coup d'œil avant de venir vous voir samedi pour cette fête des fouilles archéologiques de Roquemisou. Merci beaucoup Thomas Perrin.
Bonne semaine
à vous, bonne fin de semaine, bon travail, travaillez bien. Et votre équipe, vous avez bien de la chance, c'est mon point de vue de l'extérieur. Alain, vous aussi, vous avez de la chance, vous êtes responsable du musée.
Oui, donc c'est un métier passion.
Bon, Marc, moi aussi, je ne peux pas me plaindre. Merci beaucoup et à samedi.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.